J'essaie de voir tout le monde là. C'est vrai que tout à l'heure, quand on chantait par tous les saints glorifiés, j'ai dit quelle bénédiction. Parce que, bon, le frère ne l'a pas dit, mais on est arrivé dans la région en 1976. Septembre 1976. Notre fille aînée, Rachel, que beaucoup connaissent, est née en septembre 76. Et je me souviens que ma femme a dit qu'il n'y a personne pour venir voir mon bébé. On ne connaissait personne. Et là, regarde, gloire à Dieu, on a une famille. On vient dans la région, on n'a pas assez de temps pour voir tout le monde, pour saluer tout le monde. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est une belle œuvre. Et je dis, combien d'entre vous, déjà je vous connaissais avant de connaître le Seigneur, avant que vous connaissiez le Seigneur, et le Seigneur fait une œuvre, et il y a un beau travail. Quand on laisse faire le Seigneur, il fait bien les choses. Et s'il peut nous utiliser, Rona et moi-même, il peut utiliser n'importe quel d'entre nous. Hein, parce que la puissance vient de lui, non pas de nous. Ces derniers temps, je suis en train d'étudier, je relis ces passages de Jean chapitre 13 jusqu'à 17. Je ne vais pas lire ce passage ce matin, mais ça aurait été suffisant de le lire, mais je veux juste glaner un petit peu dans ces passages. Vous vous souvenez que le chapitre 13 jusqu'au chapitre 17, c'est la veille de la crucifixion de Christ. Ça commence par une célébration. Ils sont en train de célébrer la Pâque juive, donc la sortie du peuple de l'Égypte. Ils avaient été esclaves et là, ils peuvent partir et ils retrouvent leur liberté. Et ils sont même conduits par un excellent berger, l'Éternel, et son serviteur Moïse. Et ils sont, pour eux, c'est une soirée festive. Ils ont l'habitude, c'est-à-dire l'équivalent peut-être pour nous, c'est la veille de Noël, hein, c'est quelque chose de familial, et c'est un moment heureux. Mais avant la fin de la soirée, Jésus va commencer à soulever un sujet, parce que lui, il est quand même préoccupé. Il sait ce qui va lui arriver le lendemain. Les disciples ne sont pas conscients encore, même s'il les a essayé de les avertir. Ils ne sont pas trop conscients de la chose. Et même quand Jésus a dit que quelqu'un va me trahir, les disciples n'ont pas compris. Et même le fait que Judas se lève et qu'il sorte dans la nuit, ce qui est symbolique aussi, eh bien, eux, ils ont pensé, il l'a envoyé faire des courses, hein. Ou donner des dons quelque part. Il pensait rien. Mais Jésus sait que là, il est en train de sortir et c'est un complot qui se met en marche. Imaginez-vous, placez-vous dans une fête familiale, tout se passe bien, mais vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient de sortir et qui va vous mettre à mort le lendemain. Et Jésus, il sait ça. Les disciples ne le savent pas. Et en même temps, il sait qu'il va mourir, il va résister, il sait que les disciples ne s'y attendent pas, ils ne comprennent pas exactement ce qui va se passer. Et Jésus a besoin de les préparer, il a besoin de leur parler. Hein, imaginez-vous, vous êtes papa d'une famille, vous avez de très jeunes enfants, et vous voulez leur expliquer une mauvaise nouvelle, pour les préparer un petit peu. Hein, genre, maman, elle va mourir. Genre de choses comme ça. Et c'est pas facile. Mais il leur parle. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'au chapitre 13, dès le premier verset, il nous dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il a mis le comble à son amour pour eux. Bien sûr, nous lisons la suite du chapitre et nous voyons que c'est là où Jésus a lavé les pieds des disciples. Mais en fait, c'est pas, il y avait pas que ça dans le comble de son amour. Il a commencé par laver les pieds des disciples. Mais après, c'était la croix. C'était la résurrection. Tout, c'est-à-dire, depuis le moment où il a lavé les pieds jusqu'au moment où il a crié sur la croix, tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Tout ça, c'était le comble de son amour. Il est en train de montrer combien il aime le pécheur. À quel degré, comme ça a été lu tout à l'heure, par un seul le péché venu dans le monde, mais aussi par un seul le salut et la vie est arrivé. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus peut dire ce soir-là? Qu'est-ce qu'il peut dire à ses disciples? Eux, ils sont en train d'imaginer, ils imaginent Jésus qui va les libérer, qui va devenir le roi, comme David, le roi David avait été, et il va devenir le roi, et eux, ils seront, puisqu'ils l'ont suivi, si, bien sûr, ils sont bien placés pour être dans des positions importantes, et ils s'attendent à de grandes choses. Et Jésus doit leur dire, il a essayé plusieurs fois de le dire, et même une fois, Pierre lui a dit, arrête de parler comme ça, c'est pas comme ça. Et Jésus a dit, arrière de moi Satan, à Pierre. Donc ils sont pas du tout, les disciples sont pas dans la même longueur d'onde que Jésus. Et Jésus porte un grand fardeau, il est ému, sous un amour pour les hommes pécheurs, et il ne voit pas seulement les quelques disciples là, mais nous sommes inclus, parce que quand on lit le chapitre 17, dans sa prière sacerdotale, nous sommes inclus dans cette prière-là. Il dit, je prie pas seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront. Jésus pense à tout cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'il peut dire à ses disciples? Et il sait que il les prépare et il dit, je vais partir, hein, le chapitre 14, il commence au verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, je vais partir, il va le dire tout le long de la soirée, il va essayer de le dire doucement, mais il est un peu les préparer, je pars et vous pourrez pas me suivre. Et on lui dit, mais tu vas où? Et il dit, écoutez, je pars, mais je reviendrai. Et c'est un peu, c'est des parents qui ont essayé d'expliquer quelque chose à des jeunes enfants et qui ne saisissent pas. Mais ce que je remarque, et je veux faire juste quelques remarques, parce que on peut pas tirer, c'est tellement riche dans ces passages. Mais d'abord, Jésus, en préparation pour cela, pour ce qui va arriver, Jésus parle aux disciples et leur dit, vous savez, je fais partie d'un réseau extraordinaire, un réseau divin. Il dit, moi, je fais partie d'un réseau où il y a le Père qui m'envoie. Il y a un réseau où, moi, j'envoie l'Esprit. Un réseau où l'Esprit vous enseignera, vous parlera et me glorifiera. Un réseau Père, Fils et Saint-Esprit qui seront là. Un réseau puissant. Vous savez, chez les humains, on a, quand quelqu'un voulait vraiment vendre son service, il dit, oh, j'ai eu dernièrement, on a fait installer un climatiseur parce que chez nous, il fait chaud, hein, c'est pas comme chez vous, là. Mais, on a installé un climatiseur. Et puis je parlais avec l'artisan et puis je lui parlais de projets qu'on avait d'agrandissement. J'en parlerai plus mardi. C'est pour vous faire revenir. Hein. Et alors je lui parlais. Il a dit ah ben écoutez moi je fais la climatisation mais j'ai dit que dans le nouveau local il faudra certains installer des acclimatisations. Mais il a dit mais aussi j'ai des amis qui peuvent faire ces travaux là et puis faire ça. J'ai un réseau derrière moi. Vous pouvez faire confiance, je peux m'occuper de tout ce dont vous aurez besoin. J'ai les connaissances. Vous savez, il dit ça, c'est pour rassurer. Jésus est en train de dire à ses disciples, il dit, écoutez, moi je fais partie d'un réseau, et c'est un réseau céleste. Il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, le Père, écoutez, il s'intéresse à vous. En fait, il est descendu sur le mont Sinaï et il a parlé à son peuple. Par ma personne, Dieu est descendu vers vous, s'est incarné et a vécu parmi vous pendant une trentaine d'années. Et il dit, et le Dieu, le Saint-Esprit, il va venir demeurer en vous. Il dit, vous êtes suivis, vous êtes accompagnés, vous n'avez absolument rien à craindre, toutes les capacités divines et tous les attributs de Dieu sont à votre disposition. Vous n'avez rien à craindre, hein, ni les virus, ni les autres choses. Parlant de virus, j'ai reçu des nouvelles au Vietnam. L'église chrétienne de Vietnam, elle souffre terriblement. Pas mal de pasteurs sont morts à suite du virus. Hein, donc, c'est encore une grâce que nous sommes là. Hein. Mais il dit, nous faisons partie, j'ai un réseau extraordinaire. Et il présente cette relation. Il dit, vous savez, il y a des gens qui prennent ce que Jésus dit par rapport au Père et ce qu'il dit au Saint-Esprit, tout ça. Ils essayent pour nous dire, ben, vous voyez, ils sont pas un, ils sont deux, ils sont trois, ils sont ceci, ceci, il y en a un qui est plus grand que l'autre et tout ça. C'est pas le but du passage. Restons avec le but du passage. Il est en train de dire, nous sommes trois, nous partageons des fonctions et nous travaillons ensemble. Si c'est l'un, ben c'est toi qui dirige, moi je t'aide. Dans une autre chose, c'est moi qui travaille, c'est toi qui m'aide. Il dit, c'est un réseau où on travaille très bien ensemble. Il dit, c'est pas seulement que c'est trois personnes qui sont puissantes, mais c'est trois personnes qui travaillent harmonieusement et qui peuvent répondre à tous les besoins. Et vous relisez, je vous encourage à relire ces passages et voir ce qu'il dit de l'un et de l'autre. Il dit, mais c'est on sait travailler ensemble, on travaille bien ensemble. Et dans l'Ancien Testament, on vous a averti que je venais. Moi, je vous avertis que le Saint-Esprit vient. Et même, vous savez comment les choses vont se terminer. J'ai déjà fait un pré-enregistrement de la fin du monde. Lisez l'Apocalypse. Et voyez que ça se termine bien pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, certains ont ce problème avec la Trinité, ils ont du mal, ben moi je dis pas que je comprends. Tout ce que je sais, c'est que c'est une tri-unité. Si ils sont trois et ils sont un et ils travaillent ensemble, c'est comme imaginez cette épouse qui dit, mon mari, écoutez, j'ai une grâce extraordinaire. Mon mari, c'est pas ma femme, hein, mon mari, il a une très grande sagesse. Et mon mari, il a une habileté avec ses mains, il a des mains en or. Et en même temps, il a une compassion extraordinaire. Vous dites, waouh, ça c'est complet, hein. Celui qui aurait tout cela, ça c'est complet. Madame, vous devez être la femme la plus heureuse du monde. Eh bien, c'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Vous avez un Dieu qui a une sagesse extraordinaire, sans limite, qui a une habileté d'agir, et il est tellement grand qu'il arrive à faire des petites choses. Ça n'existe pas chez les hommes. Et il a aussi une compassion extraordinaire. Et il comprend. Et il s'est porté un fardeau, il s'est écouté et il s'est montré de la compassion. Il dit, voilà ce que je vous présente. Voilà le Dieu que je vous présente. C'est pas celui que les hommes imaginent et celui qu'on retrouve dans des religions. Voilà le Dieu de l'Évangile. Il dit, c'est celui-là. Il dit, écoutez, c'est à ce Dieu-là que je vous confie. Vous n'avez rien à craindre. Il va leur parler ce soir-là. Il a dit, vous serez persécutés, vous aurez des moments difficiles, vous serez dans la tristesse, il y aura des choses. Mais ne craignez point. Je vous confie à un réseau, c'est le Dieu unique qui agit dans trois fonctions différentes, mais qui est là pour vous. Il vous aime, il veut intervenir dans votre vie, et il sait conduire. Et il sait faire de belles choses. Il dit, voilà à qui je vous confie. Et c'est, vous savez, c'est encore vrai aujourd'hui. Et vous écoutez les informations un peu longtemps et vous commencez à paniquer. Vous dites, mais où est-ce qu'on va? Mais c'est le moment d'éteindre la télé et puis d'ouvrir Jean chapitre 13 à 17 et dire, mais moi je fais partie de ces personnes-là. Ou comme nous l'avons vu tout à l'heure, de ceux qui ont venu prendre du pain qui vient d'en haut et qui ont voulu étancher leur soif auprès du Seigneur. Ça, c'est la première chose que le Seigneur présente à ses disciples. Il dit, voilà, je vous confie cela à eux. Bon, ils écoutent. Plus tard, ils écriront même dans les évangiles, ils diront, ah, il nous a parlé de cela, mais elle n'avait pas compris. Hein, vous vous rappelez quand il a dit, ils lui ont dit, Jésus, regarde, c'est ce temple d'Hérode, là, ce temple de Jérusalem, il est magnifique, hein. Il a dit, il dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Il regarde. Et même, c'est pas seulement les disciples qui ont entendu, mais c'est même tous les autres, les ennemis ont entendu. Parce que quand on voulait l'accuser à la croix, on dit, mais il a dit qu'il pouvait détruire le temple et le rebâtir en 3 jours. Il voulait le crucifier à cause de ça. Et ils avaient même pas compris, ils savaient même pas reproduire, et ils savaient même pas mentir, ces pauvres témoins. Mais les disciples, par la suite, ils disent, ah, nous, on n'avait pas compris de quoi il parlait, mais en fait, il parlait de son corps, qui serait détruit et qui rebâtirait, qui ressusciterait en 3 jours. Vous savez, ces disciples sont là, mais pour nous, c'est des choses déjà qu'on a compris, c'est des choses claires. Donc pour nous, ça devrait être encore plus clair ce que le Jésus promet. Et ensuite, une deuxième chose que j'ai remarquée là-dedans, dans cette soirée, c'est que Jésus insiste beaucoup sur le moyen de communication. Plusieurs fois, il parle du fait de s'adresser à Dieu. Et il parle de la prière en son nom. C'est pas le mot magique, hein, dire au nom de Jésus et puis après tout se passe. Hein, ça n'a rien à faire de magique. Si vous avez lu dans les Actes des Apôtres, vous voyez, il y a un moment où il y a des frères qui veulent exorciser quelqu'un, et puis ils avaient entendu Paul qui se sert du nom de Jésus, alors ils ont dit, ben on va essayer ça. Hein. Et donc ils ont dit aux démons, ils ont dit, écoute, nous t'ordonnons de sortir de là au nom de Jésus que Paul prêche. Et c'était pas le mot magique, parce que pour eux, ça s'est mal terminé. Ils ont dit, Paul on connaît, Jésus on connaît, mais vous, qui êtes-vous, hein? Qui êtes-vous pour utiliser ce nom-là? C'est de l'usurpation. Vous ne le connaissez pas. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser, de l'évoquer même. Vous n'êtes pas à lui. Hein, c'est dans le sermon sur la montagne, Jésus parlera de ceux qui diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas en ton nom? Il dira, je ne vous connais pas. Vous savez, c'est déjà arrivé. Des fois, je rentre dans un bureau, quelqu'un m'a envoyé, m'a donné les noms de la personne, donc j'arrive devant la personne, et je dis, parce que je veux quelque chose, parce que je sais que moi, je suis personne, pour la personne, en tous les cas, je dis, je viens de la part de un tel. Et j'évoque le nom de quelqu'un. Vous savez ce que, le plus souvent, qu'est-ce qu'on m'a répondu? Il m'a dit, comment vous connaissez cet homme? J'ai entendu deux personnes qui parlaient dans le café et elles disent non. Ben ça va pas loin. Hein. Ben, rien du tout. Oh, j'étais une fois dans une église et puis il parlait de Jésus et puis il disait que si on prie au nom de Jésus, tout est bon. Hein. Il dit, je ne connais pas. Il dit, ce nom-là, il représente, vous le connaissez comment? C'est qui pour vous? Et si vous dites, ah, mais ça, c'est, et puis vous reparlez, et tout ça, ah, ça, c'est autre chose. Oui, monsieur, venez, on va voir ce qu'on peut faire. Ça change tout. C'est pas le fait d'évoquer le nom, c'est de connaître la personne qui porte ce nom. Et si on veut s'approcher de Dieu au nom de Jésus, il va dire, mais, et Jésus, c'est qui pour toi? Comment tu le connais? Je suis né en Europe et donc on parle de Jésus au lieu de parler de notre nom. Hein. Et il dit, ça ne marche pas, ça ne va pas loin ça. Tu ne te connais pas, donc je ne te connais pas. J'ai rien pour toi. Il faudrait aller revoir la personne, faire sa connaissance. Va voir. Et vous savez, aujourd'hui, c'est encore possible de connaître Jésus. C'est encore possible de faire sa connaissance. Je sais, plusieurs d'entre vous, on était ensemble quand on a fait la connaissance de Jésus. Regardez dans Jean chapitre 14, verset 6, c'est un verset qu'on cite souvent, mais c'est d'abord un verset sur la prière. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » C'est-à-dire impossible de s'approcher, de même entrer en conversation avec Dieu sans passer par Jésus-Christ. Mais si on a Jésus-Christ, on n'a besoin d'aucun autre nom, hein, ni saint, celui-ci. Saint. En France, on a beaucoup de saints. Hein. Une fois, il y a un maghrébin qui est rentré au pays, il a dit « Ah, en France, il y a beaucoup de saints. » Mais il y en a un qui est surtout utile pour trouver du travail, c'est le syndicat. Mais vous savez, quand on a connu Jésus-Christ, on n'a pas besoin d'évoquer ni sa mère, ni ceux qui l'ont aimé, ni les disciples, les noms des disciples, ni personne. On n'a pas besoin de trouver quelqu'un qui, durant sa vie, a été pieux et a fait un miracle. Si on connaît Jésus, ça suffit largement. Parce que lui, il est bien placé, il est assis à la droite du Père. Donc, il ne peut pas être plus près que ça, hein. Quand un Jean nous dit « Nous avons un avocat », Jésus-Christ, à droite du Père, c'est un avocat. Il est là. Un avocat, c'est pour nous défendre, nous, hein, pour défendre l'accusé. Regardez ce que Jésus dit. Par exemple, au chapitre 14 et verset 12 à 14, je lis. Jean chapitre 14, verset 12 à 14. Il dit « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » C'est dans le contexte de quoi qu'il fait cette promesse ? C'est dans le contexte d'une œuvre, de l'œuvre de Dieu. Si vous êtes en train d'accomplir l'œuvre de Dieu, vous êtes en train de servir Dieu, et Dieu est glorifié par cette œuvre, vous pouvez demander ce que vous voulez au nom du Père, je l'accorde. Au nom du Fils, au mon nom, je vous l'accorde. Vous le recevrez du Père. Hein, c'est pas quelque chose. La promesse, elle est faite pour un cas particulier. Hein, on peut pas s'en servir pour n'importe quoi. C'est ma femme, elle m'amuse parfois, parce que dès qu'elle a besoin d'un outil, moi, je vais au garage. Elle va dans la cuisine. Et des outils qui ne sont pas faits pour ça, et elle s'en sert. Mais elle connaît ces outils-là. Mais les miens, dans le garage, elle ne les connaît pas. Mais, vous savez, mais un outil, quand il a été créé, c'était pour une fonction particulière. Et normalement, on s'en sert pour la fonction particulière. Et ici, il dit, voilà, c'est pour ceux qui sont dans l'œuvre. Hein, une œuvre qui me glorifie. Chapitre 15, versets 7 et 8. Chapitre 15, versets 7 et 8. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il dit, si vous demeurez en moi, et il suffit de lire l'illustration qu'il donne au début, il dit, voilà, je suis le cep, vous êtes les sarments, et vous, tant que vous êtes hanté en moi, hein, attaché à moi, vous pouvez produire du fruit. Il dit, donc, si vous êtes des sarments qui sont attachés au cep, et vous avez besoin de quoi que ce soit pour produire du fruit, vous demandez en mon nom et le Père vous l'accorde. Mais il faut demeurer en lui. Je continue. Chapitre 15, versets 16 et 17. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Il dit, voilà, je vous ai choisi pour une fonction particulière, pour produire du fruit. Et si vous êtes dans cette direction-là, et si vous êtes en train de chercher à produire du fruit et vous avez besoin de quelque chose pour produire ce fruit, eh bien, demandez à mon nom, je vous l'accorde. L'église de Sarcelles dit, Seigneur, on n'a pas où se réunir, on ne trouve pas. Nous sommes une église, sans SDF, sans domicile fixe. Une fois ici, une fois là-bas. Seigneur, c'est pour toi qu'on fait ça. Tu ne peux pas nous aider un peu? Et par la foi, ils ont demandé au nom de Jésus et le Seigneur pourvoit. Je dis ça, c'est pour m'encourager moi aussi, parce que bientôt on aura besoin de ça aussi. Je continue, chapitre 16. Versets 26 à 28. Vous savez, si Jésus répète quelque chose, il faut tenir compte. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas juste quelque chose qui est passé. Non, c'est très important. Et s'il le répète plusieurs fois, il le dit là. Et versets 26 à 28, il dit, en ce jour-là, vous demanderez en mon nom et je ne vous dis pas ce que je prierai le Père pour vous. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Il dit, écoutez, vous m'avez aimé. Moi, je vous confie au Père. Et parce que vous vivez dans cet amour et dans cette relation, eh bien, écoutez, en mon nom, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Même si je ne suis pas là, hein, vous pouvez demander, pas de problème, il vous connaît. J'étais en train de, tout à l'heure, vous savez, pour ceux qui me connaissent, j'ai pas mal d'imagination. Hein, et j'imagine quelqu'un qui adresse une prière au Seigneur. Et il dit, Seigneur, Père, j'ai besoin de ceci, cela. Il dit, pourquoi faire? Vous avez des papas, hein? Et le papa vous demande 10 euros et il dit, c'est pourquoi faire? Le Père céleste aussi, hein? J'ai besoin de faire, c'est pourquoi faire? Eh bien, pour ceci, cela. Et il dit, d'accord. Et vous savez, il y a cette relation qu'on peut avoir avec Dieu. C'est pas Dieu, c'est pas l'assistante sociale, hein, que j'ai un pépin, je vais le voir et puis écoute, tu peux pas me dépanner un petit peu là, comme certains viennent vous voir aussi pour être dépannés, hein. Ils pensent à vous jamais et quand il y a un pépin, ils viennent vous voir et tout d'un coup la mémoire elle fonctionne. Et beaucoup de gens font ça avec Dieu aussi. Je ne sais pas comment ils supportent. Mais il y a ceux qui ont une relation. Et eux peuvent s'approcher et dire, Seigneur, voilà, moi je suis à ton service, je suis en train de faire pour toi, c'est un besoin. Et il dit, et comment tu connais Jésus? Ah, Jésus, je le connais. Je l'ai rencontré au pied de la croix de Golgotha. Et là, j'ai vu, Père, tout ton amour pour moi. Et ça, c'était quand j'étais encore pécheur. Et tu m'as aimé. Tu as tendu une main. J'ai senti cette main percée. Ça m'a écorché sur le dos quand il m'a pris. Mais j'ai senti plein de compassion dans cette main. Moi, j'avais la tête baissée, j'avais honte. Mais avec sa main, il a relevé mon menton et m'a dit, regarde-moi dans les yeux. Je t'aime. Je t'aime. Et je veux que tu sois avec moi. Il dit, ah. Il dit, tu sais, mon fils, en fait, je te connais, hein. Il m'a déjà parlé de toi. Et il a déjà évoqué ton nom. Tu sais, avant que tu arrives, je savais déjà que tu arrivais. Il m'a déjà dit, parce qu'il est juste là à côté, et il m'a parlé de toi. Il a dit, tu sais, il y a le frère qui va arriver, un tel, il va venir, il va te demander ça. Et le père, il dit, oui, ben écoute, mon fils, si tu connais, il m'a parlé de toi, j'ai pas de problème. On va voir, on va trouver le meilleur moyen de te le donner. C'est pas toujours, tiens, prends. Parfois, il y a des modalités de comment il le donne pour notre bien. Parce qu'il a dit, parce que vous savez, il y a des cadeaux qu'on fait et on perd les gens. Vous faites quelqu'un, vous lui faites un prêt, et puis il ne rembourse pas, et puis d'un coup, il disparaît. Et il dit, non, je ne te prête pas parce que je ne veux pas te perdre. Je t'aime trop. Je te fais un don si je peux. Et Dieu fait comme ça aussi. Il dit, je vous donne cela, je vous donne cette possibilité. Vous allez avoir, il en parlera, je ne vais pas le lire ce matin, mais il dit, il y aura des moments tristes, il y aura des moments difficiles, il y aura des moments où vous vous sentez seul, tout cela. Mais écoutez, adressez-vous au Père en mon nom et il fera quelque chose. Et puis une troisième chose que je veux faire remarquer, c'est que, et ça c'est une habitude de Dieu, c'est de faire des promesses, et pas des promesses vides. Et nous savons que les promesses que nous avons, elles vont se réaliser. Pourquoi ? Parce que les promesses du passé se sont réalisées. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. Je sais que beaucoup de gens, quand ils lisent ce verset, ils pensent tout de suite à la maison qu'ils vont avoir au ciel. Ils disent « Ah, elle va être comment ?» Il dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous soyez, y soyez aussi. » Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il dit, en fait, ce que Jésus est en train de dire, et c'est là la promesse. Hein, nous, on est tellement humains, hein, un peu comme les disciples. Il dit, je vais préparer une place. Il dit, ah, elle est comment la maison? J'espère qu'elle est jolie. Hein, j'espère que ce ne sera pas loin du trône. J'entendrai toujours le chant des anges. Tout le... Mais tu penses à qui, toi? Toujours centré sur toi-même, ton petit confort. Comme tu as été sur terre, tu veux être au ciel. Non, on sera transformé. On n'aura plus des pensées pareilles. Alors, c'est pas la peine de les entretenir maintenant. Ce qu'il est en train de dire, il dit, écoutez, je fais tout pour qu'on soit ensemble. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez de plus? Quand Jésus lui dit, je fais tout pour que l'on soit ensemble. Ça suffit. Vous parlez des enfants, vos enfants, et vous leur parlez de vacances. On va partir en vacances à un endroit, et vous dites le nom, et lui, ça ne lui évoque rien du tout. Et dites, on va y aller là-bas, et on va être ensemble. Toute la famille, on fera des choses. Et bien, les enfants, ils sautent de joie. Et ils ne savent même pas où c'est, ni comment c'est, ni rien du tout. Et surtout, ils ne savent pas que ça fait 800 kilomètres. Mais, vous savez, ils sont tout contents. Pourquoi ? On sera tous ensemble. Peu importe ce qu'on fait. On marche, on fait du cheval, on fait du vélo, peu importe, on sera ensemble. C'est ça que Jésus dit à ses disciples. Il dit, je m'en vais. Mais vous savez, je fais tout pour qu'on soit ensemble. Et vous savez, c'est ce qui nous rassure aujourd'hui. C'est que on trouve beaucoup de réconfort à être comme ça, dans notre imperfection et avec des rendez-vous, on se retrouve. Mais un jour, nous serons tous ensemble. Et ce sera sans interruption. Et puis on sera, je serai plus beau. Je sais que c'est déjà pas mal, mais bon. Mais je serai parfait. Et deuxièmement, au chapitre 14, versets 18 à 21, vous savez ce qu'il dit ? Parce que quand il évoque le mot orphelin, il faut se mettre dans le contexte où peut-être certains d'entre vous, dans votre pays aussi, un orphelin, c'est un gars qui n'a plus de droits, qui n'a plus rien du tout, et il est à la merci, il espère que quelqu'un va être un peu gentil avec lui. Hein ? Il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce temps-là, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les a gardés, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Il parle au futur, ça veut dire que même ce qu'on sait maintenant, c'est rien par rapport à ce qu'on va savoir. Mais il dit, encore une fois, vous ne serez pas seul. Vous ne serez jamais orphelin. Vous aurez les droits d'un fils pour toujours. Et au chapitre 16, et au verset 16, il dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Ça, c'est triste. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Il dit, on ne se perd pas. Et je continue avec verset 20, dans le même contexte. Il dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle a enfanté, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle donne le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc, aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira ma joie. Il dit, il fait une promesse extraordinaire. Il dit, écoutez, le trajet il va peut-être difficile, il y a des moments difficiles dans le trajet. Mais il a dit, je vous donne rendez-vous, on sera ensemble et on sera dans la joie. Et une joie permanente. Il dit, je vous promets cela. Et au verset 33, c'est la fin de sa conversation ce soir, alors juste avant de prier, le chapitre 17. Il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit, peut-être qu'on a l'air de perdre quelques batailles, mais la guerre, elle ne sera pas perdue. Et il dit, vous pouvez faire confiance. Et il dit, il termine avec, il dit, je vais vous donner un signe. Je vais vous donner une preuve comme quoi ces choses vont arriver. Donc au chapitre 16, et je lis les versets 5 à 11. Voilà, c'est le signe. C'est le signe qui, en fait, c'est le plus grand signe de Pentecôte. Hein. Beaucoup de gens parlent du signe, parler en langue de Pentecôte. Ça, c'était juste un petit détail qui permettait que plus tard, quand Dieu voulait que les Juifs comprennent que les païens étaient inclus dans le message de l'Évangile, et donc ce signe-là a permis de faire la liaison. Hein? Mais le grand signe, c'est celui-ci. chapitre 16, verset 5, il dit « Mais maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où tu vas. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse remplit votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais point, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc on a quand même l'impression que la venue de l'Esprit Saint, c'est très très important. On sait qu'il est venu à Pentecôte, mais Jésus dit, là vous, c'est encore mieux que maintenant. Et quand il sera venu, première chose, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Et c'est un passage que beaucoup de gens, ils se posent la question, ils disent, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Vous avez peut-être entendu toutes sortes d'explications, qui ne sont pas complètement fausses. Mais il y a une application directe qui s'accomplit le jour de Pentecôte. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, et au verset 22, voilà la... Le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Paul descend dans la rue, il se met à prêcher. Et au verset 22, voilà ce qu'il dit. Homme, ça c'est quand il s'adresse au peuple, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Il dit, oui, c'est pas vieux, hein. Il dit, ça fait seulement 50 jours hein, depuis qu'il n'est plus. Mais vous avez vu pendant plus de 3 ans, vous l'avez vu faire des miracles. Il dit, cet homme, livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce que ce n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Rappelez tout à l'heure, il dit, le Saint-Esprit convaincra de péché. Eh bien, leur grand péché, c'était d'avoir crucifié Jésus-Christ. Mais eux pensaient faire quelque chose de bien. C'était un homme qui est faux. Crucifie-le! Mais Pierre en dit, vous avez commis un grand péché. Et la preuve, c'est que vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité. Ça veut dire, je ne suis pas d'accord avec votre jugement. Je ne soutiens pas votre jugement. Et Dieu a justifié Jésus. Il l'a ressuscité. Il a dit, c'est vous qui avez tort, c'est pas lui. Et alors, tout de suite, eux se sont sentis coupables. On a fait quelque chose de grave. On a crucifié celui que Dieu a envoyé. Et alors, regardez le verset 37, quand ils ont vraiment le message pénètre dans leur cœur, ils disent, après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché, ou piqué, transpercé, c'est un mot très fort. Il dit, homme, frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit a fait son œuvre. Il a convaincu de péché. Et le mot convaincre, dans le acte Jean chapitre 16, le mot convaincre, ça veut dire, c'est le mot fort qui veut dire, il a démontré, il a prouvé que vous avez péché. Il a prouvé, c'était indiscutable que vous avez mal agi parce que Dieu l'a ressuscité. Le Saint-Esprit vous prouvera que vous avez péché. Et justifiera Jésus en le ressuscitant des morts. Et vous, vous serez condamné pour ce que vous avez fait. Vous serez sous le jugement. Il dit, frère, que peut-on faire, nous? Ah, c'était pas dans l'ignorance, c'était, on s'est laissé entraîner. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? C'est un peu ce qu'il disait, hein. C'est un peu désespéré, là. Et Pierre dit, ben, repentez-vous. Et croyez. C'est-à-dire, reconnaissez ce que vous avez fait, demandez à Dieu de vous pardonner. Vous savez, et c'est de cette manière-là, et ça c'est l'œuvre de l'Esprit chez chacun d'entre nous. Si c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu, la première chose c'est que je prends conscience de mon péché, de la faute. que j'ai mal agi, j'ai désobéi à Dieu. Ce n'est pas une question en quoi j'ai désobéi. Parce que ce n'est pas l'acte qui est important, c'est le fait de désobéir à la personne. Que j'ai volé, que j'ai tué, que j'ai commis adultère ou que j'ai... C'est pas ça, c'est le fait que j'ai désobéi à Dieu. Et c'est là où c'est grave. Parce que lui prend ça personnellement. C'est un acte contre moi. Il dit, mais je ne savais pas, j'étais un peu... On est dans une société, on est entraîné, ils nous disent que ce n'est pas un mal, c'est n'importe qui. C'est, on me dit, mais c'est comme ça que tu faut vivre, hein, sinon tu vas te faire écraser. Mais je suis dans un monde où on m'enseigne autrement. Il dit, écoute, d'accord, mais prends conscience de ce que tu as fait. Jésus est mort sur la croix pour prendre ta faute, pour prendre sur lui ta faute. Donc je peux te pardonner. Repens-toi, demande pardon. Et la réponse est si simple pour une faute si grave. Et vous savez, et c'est encore valable aujourd'hui. Parce que Jésus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Jean chapitre 17, il a dit, c'est vrai pour ceux-là et pour ceux qui croiront. Vous savez, c'est le message de Pentecôte, le message que le Saint-Esprit a transmis à travers de Pierre. C'était l'œuvre qu'il a fait dans les cœurs, c'est le commencement et c'est la base de l'œuvre de Dieu depuis. Jean chapitre 16, verset 1. Il dit, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Il dit, voilà, il y a des choses qui vont arriver, peut-être vous n'y attendez pas, vous n'avez pas compris tout ça. Je vous avertis, sachez, mais ce que vous devez savoir, c'est que je vous ai confié à un réseau divin qui a toutes les capacités possibles de prendre soin de vous, peu importe ce qui arrive. Il dit, vous avez un moyen de vous adresser, je vous donne mon nom. Vous me connaissez, vous m'aimez, je vous aime, j'en parlerai au Père, parce que je m'installe à la droite du Père et je lui parle. Il n'y a pas de problème, vous pouvez venir, il sait qui vous êtes, si vous êtes enfant de Dieu. Et il dit, et vous savez, je suis en train de mettre tout ça en place. Ça va traîner un petit peu parce que je voudrais que le plus grand nombre puisse être sauvé. Et donc, voilà, il y a des choses qui vont traîner un petit peu, mais c'est pas à cause de vous, hein, ça n'a rien à faire. Et c'est pas parce que je ne sais pas faire, je ne sais pas où vont les choses, ou c'est j'ai pas prévu. Non, non, il dit tout est en place, mais c'est que je veux le plus grand nombre soit sauvé. Donc ça traîne un peu, ça fait 2000 ans que ça traîne, mais rien n'est perdu, parce que par rapport à l'éternité, 2000 ans, c'est rien. Et en fait, nous, si on est là chrétien, on souffre un petit peu, c'est pas grave. Nous, on sait où on va. Mais ces pauvres mondes autour de nous, eux, c'est grave si le Seigneur revient. Et qu'ils ne le connaissent pas, ils sont perdus pour toujours. C'est grave pour eux. Pour nous, c'est pas grave. Je souffre un petit peu, mais bon, je sais où je vais. Je relis ces versets quand même. J'y fais référence, mais Jean chapitre 17, versets 20 et 21. Jésus, dans sa prière, dit « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es un en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Il dit « Voilà, c'est tout ce que je veux. » Et il nous inclut là-dedans. Le dernier verset, le verset qui permet le signe distinctif d'un chrétien, c'est pas le fait qu'il ait une croix autour du cou, mais c'est le verset chapitre 13, verset 33. Verset 35, en fait, mais je vais commencer à lire au verset 33. Mes petits enfants, je suis pour un peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, et je vous le dis maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est le signe distinctif. C'est pas la petite croix, c'est pas le fait que je m'appelle Paul ou Marie, c'est le fait que nous avons de l'amour les uns pour les autres. Quelqu'un, un visiteur entre ici, comment est-ce qu'il va savoir que c'est les enfants de Dieu? C'est s'ils trouvent l'amour les uns pour les autres. Parce que des rassemblements de gens, il y en a toutes sortes, hein. Mais c'est pas toujours la même ambiance que ce qu'on a vécu ce matin. Gloire à Dieu. Prions. Père Céleste, combien nous sommes reconnaissants pour ces paroles qui ont été conservées jusqu'à notre jour pour que nous puissions les lire et nous consoler, nous réconforter. Et Seigneur, dans ce monde où chaque fois qu'on écoute les informations, c'est du meurtre, c'est du vol, c'est de l'exploitation, c'est de la menace, c'est d'injustice. Mais Seigneur, quand nous lisons la parole, eh bien nous voyons un Dieu aimant. Un Dieu qui nous aime, qui nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Seigneur, que ta parole puisse nous... S'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, eh bien, qu'il puisse aller là où moi j'ai trouvé le pardon, c'est à la croix de Christ, symboliquement. Je suis venu et j'ai dit, Dieu, je suis un pécheur. Et je voudrais ton pardon. Et il dira, je te pardonne, tu es maintenant mon fils. Et je veux que tu sois avec moi. Vis pour moi, je te donne tout ce qu'il te faut. Lis la parole. Écoute, suis les instructions de l'Esprit de Dieu en toi. Et on sera ensemble pour l'éternité. Quel plaisir de pouvoir dire des belles choses pareilles, Seigneur. Quel privilège. À toi toute la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen.